L'histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir le père Jean-François Thomas. Mon père, nous allons célébrer en cette fin mai 2021 un peu mieux, en dépit du contexte sanitaire que ne le fut le centenaire en 1971, l'anniversaire de la semaine sanglante de la Commune et le souvenir des ecclésiastiques otages qui furent alors massacrés en représailles des violences versaillaises. Violences qui n'est absolument pas question de justifier de près ou de loin, car elles furent absolument abominables, et elles rappellent simplement de quoi un pouvoir bourgeois qui se disait républicain est capable lorsqu'il craint pour ses intérêts matériels. On a parlé de au moins 17 000 communards, supposait-elle, massacrés dans les jours qui ont suivi la chute de la Commune, et ça c'est absolument intolérable. Cela ne doit pas pour autant faire oublier ces religieux qui furent victimes de ces violences politiques, depuis l'archevêque de Paris jusqu'à un simple séminariste, Angevin, l'abbé Seigneret, qui n'avait que 25 ans et qui fut emporté dans cette folie furieuse et ces atrocités. Parmi ces religieux se trouvaient plusieurs jésuites, les pères Alexis Claire, Léon Ducoudray, Pierre Olivin, Anatole de Bingy, Jean Cobert. Mon père, la Compagnie de Jésus veut-elle célébrer leur mémoire cette année?
Alors, votre question remplie de confusion et de honte, parce que je n'ai entendu parler de rien. Alors, je suis peut-être mal informé, pas toujours bien informé, ou je ne m'informe pas suffisamment, mais non, je n'ai pas l'impression que la Compagnie de Jésus ait prévu quoi que ce soit. Je pense même, d'ailleurs, que la plupart des jésuites, au moins parmi les plus jeunes, ne connaissent pas l'existence de cet épisode. Beaucoup de jésuites, aujourd'hui, ne connaissent mal l'histoire plus contemporaine de la Compagnie de Jésus, s'attachant plus à l'époque de Saint-Ignace. Donc j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de célébration de ces martyrs.
Mon père, en 1971... Le cardinal Marty avait assez sciemment choisi à Paris de passer l'épisode et le centenaire sous silence. C'était la fameuse expression qui était en vogue à l'époque dans l'Église, « il ne faut pas désespérer Billancourt oui. ». Mais un demi-siècle plus tard, alors que l'URSS est tombée, que le rêve des lendemains qui chantent devrait quand même s'être un peu dissipé, comme je le disais à l'instant, sans manquer à la mémoire des victimes des deux bords, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'en rester là est un peu dépassé?
Alors, si vous voulez, je crois que le schéma est un peu différent de celui de 1971. Il y a moins d'idéologie, y compris d'ailleurs dans les ordres religieux les plus frappés par cette idéologie gauchiste, et la Compagnie de Jésus en a fait partie à l'époque. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que les débats soient idéologiques. Il y a encore des débats qui ne sont pas toujours de bonne qualité, mais en tout cas, il y a moins de... Il y a moins d'intolérance et de fermeture à la réalité. En revanche, je crois qu'il y a une espèce de lassitude spirituelle par manque de vitalité. Donc, il y a un vide. Et des événements tels que des commémorations, comme cet épisode sanglant, trouvent... En face d'eux, le vide, simplement, qui n'est pas un désintérêt affiché volontaire, mais qui est simplement la conséquence de décennies de méconnaissance de l'histoire de l'Église et de méconnaissance de la tradition de l'Église.
Mais est-ce qu'une société ou un ordre religieux peuvent survivre sans se souvenir de leurs racines?
Non. C'est en effet un risque que prend un ordre religieux, mais il y a parfois des aveuglements qui sont tels que dans certains ordres religieux, on considère qu'on a raison contre tout le monde, qu'on a raison contre l'Église dans son héritage, et que ce qui importe, c'est d'épouser plutôt les modes du moment et les thèmes du moment. Donc, vous voyez bien que dans l'Église aujourd'hui, et c'est vrai aussi pour bien des ordres religieux, en tout cas dans la Compagnie de Jésus, ce qui est mis en avant, ce sont les thèmes du moment. Donc c'est l'écologie, c'est l'accueil des migrants, etc.
Il faut dire que depuis sa reconstitution par le pape Pie VII en 1814, la Compagnie de Jésus a été la cible de toutes les attaques anticléricales du XIXe siècle. Mon père, pourriez-vous nous rappeler comment les jésuites ont été en quelque sorte ressuscités après leur suppression dans les années 1760 au Portugal d'abord, puis en France et dans le reste de l'Europe, et à quoi a tenu cette haine de ceux que Eugène Sue et la presse anticléricale avaient appelés les hommes en noir ?
Alors, c'est une histoire qui est passionnante, qui est très très complexe, et qui remonte presque à l'origine de la Compagnie de Jésus, en tout cas dès que la Compagnie de Jésus, et ça dès le vivant de Saint-Ignace, a commencé à remporter entre guillemets des succès. Donc elle a déjà fait l'objet d'immenses jalousies au sein même de l'Église. Souvenez-vous de ce qu'on a appelé la querelle des rites en Chine.
Les fameux rites chinois.
Fameux rites chinois, oui. Mais bon, l'enjeu n'était pas là. L'enjeu, c'était d'abord la jalousie d'autres ordres religieux contre la Compagnie de Jésus. Et les papes eux-mêmes ont hésité. À certains moments, ils ont aidé la Compagnie à poursuivre dans cette voie. À d'autres moments, il y a eu des condamnations ou bien l'invitation à plus de prudence. Donc il y a d'abord eu, entre guillemets, un ennemi intérieur à cause de la jalousie humaine. L'Église est faite d'hommes, et hélas, c'est ainsi. En tout cas, en 1773, lors de la suppression de la Compagnie de Jésus, il y avait 23 000 jésuites dans le monde. C'est un chiffre qui ne sera dépassé que par le chiffre de 1962, à l'ouverture du Concile Vatican II, il y avait 37 000 jésuites dans le monde. C'est-à-dire que depuis le rétablissement de la Compagnie en 1814 jusqu'en 1962, c'est un chiffre qui vous donne à imaginer l'activité, le dynamisme des jésuites qui sont repartis à partir absolument de rien. Donc, ceci donne une idée de la capacité de ces hommes à l'époque.
Je crois qu'en 1814, il restait 600 jésuites dans le monde et la plupart d'entre eux étaient plus que septuagénaires, ce qui à l'époque était un âge très très avancé.
Bien sûr, oui, dont le refondateur de la Compagnie de Jésus en France, l'admirable et saint père de Clorivière.
Auquel il faudrait un jour consacrer une biographie digne de ce nom.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un grand homme et il mériterait d'être canonisé.
Et dont le bicentenaire de la mort doit se situer, si je ne m'abuse, l'an prochain.
Oui, mais là aussi, je ne sais pas très bien quelle sera l'attitude de la Compagnie à son égard. En tout cas, les critiques, les attaques de la Compagnie ont commencé. Évidemment, les plus fortes, c'était au moment du jansénisme. C'est vrai que les jésuites se sont opposés au jansénisme. Alors le premier janséniste, j'allais dire le jansénisme religieux au XVIIe siècle, et puis ensuite les terribles attaques des jansénistes, cette fois de façon plus politique, contre les jésuites au XVIIIe siècle, avec cette fois des alliés de poids, les francs-maçons qui viennent de naître, les philosophes, les parlements du royaume, etc., et puis de quelques grands de la cour qui vont tout faire pour que la Compagnie disparaisse également en France. Et en effet, ce sont les rois catholiques, en fait, ce sont les rois chrétiens qui ont fait pression sur le pape pour que la Compagnie soit supprimée, parce que la Compagnie, quand vous prenez son histoire au XVIIe, XVIIIe siècle, elle a été présente dans tous les domaines et elle a été présente absolument partout. Et avec des œuvres de très très grande valeur. Je ne dis pas ça parce que je suis jésuite. Moi, je me sens vraiment tout petit, surtout dans la Compagnie telle qu'elle est actuellement. Mais quand on voit l'histoire de la Compagnie à cette époque, c'est absolument prodigieux. Et on en connaît simplement une épingle par rapport à la masse du travail effectué, encore une fois, dans tous les domaines et sur tous les continents par la Compagnie. Donc ça a valu, évidemment, des jalousies, des inimitiés. Et puis, les ennemis, ceux qui étaient les modernistes et les progressistes de l'époque, qui voulaient déjà un changement de régime, savaient très bien qu'avec les jésuites en France, la révolution ne pouvait pas se faire. Et le premier acte de la révolution n'est pas la prise de la Bastille. Le premier acte, c'est la suppression de la Compagnie de Jésus par le pape en 1763.
C'est ce que dit Voltaire d'ailleurs en jubilant. L'Église vient de supprimer ses pendours, maintenant il sera plus difficile de l'abattre.
Exactement, Voltaire, ancien élève de la Compagnie de Jésus.
Il ne faut pas oublier le rôle d'éducateur de la Compagnie, rôle admirable, oui. Même si le lycée Louis le Grand que la Compagnie tenait sera une pépinière de révolutionnaires, hélas.
Bien sûr. Ensuite, on peut discuter, si vous voulez, de la méthodologie de l'éducation jésuite qui a trop insisté sur la remise à l'honneur de l'Antiquité. Et je pense que c'était une erreur.
Mais cette haine reste extrêmement agissante au XIXe siècle.
Oui.
Mais que représente exactement la Compagnie de Jésus en 1870? Elle a été à plusieurs reprises, y compris sous le règne de Louis XVIII, interdite d'enseignement, c'est-à-dire que les querelles n'avaient pas désarmé. Est-elle encore une force à ce moment-là? Est-elle un danger pour les déchristianisateurs qu'on s'acharne à ce point-là contre elle?
Oui, elle est considérée comme un danger. N'oubliez pas que, une des figures de martyrs, c'est le père Olivain. Le père Olivain, il est entré au noviciat le jour même où Thiers, qui sera justement le grand sanguinaire contre les communards en 1871.
Thiers est protestant, il ne faut pas l'oublier quand même.
Oui, expulse les jésuites de France. Les jésuites de France ont été expulsés je ne sais pas combien de fois au XIXe siècle. Pourquoi? Parce que au XIXe siècle, bon, il fallait repartir à partir de zéro. C'est quand même Napoléon qui, à la fin de son règne, s'est rendu compte que la Révolution avait absolument anéanti l'éducation en France. Et donc, c'est lui qui a soufflé aussi à l'oreille du pape Pie VII, donc il a tenu prisonnier, comme on sait, de rétablir la Compagnie de Jésus, non pas parce qu'il aimait les jésuites, il ne les connaissait pas d'ailleurs, ou très peu, mais parce qu'il désirait redonner à la France et à l'Empire une structure éducative. Donc, durant le XIXe siècle, les jésuites français vont s'atteler à quoi, en priorité? À réouvrir des collèges. Et donc, en 1870, il y a 46 collèges jésuites en France. Et il y a 1500 jésuites. Donc, ce n'est pas rien. C'est une force considérable dans l'éducation. Donc ça, c'est ce que les anticléricaux ne peuvent absolument pas supporter. Parce qu'ils voient bien que les jésuites, alors selon leur vue, déforment les esprits et ne forment pas évidemment de bons républicains.
Pourtant, ce qui est assez étonnant, si on pense à la manière dont la Commune a ciblé les établissements jésuites de Paris, c'est un des reproches qu'on a fait d'ailleurs aux jésuites, c'est d'avoir été surtout les éducateurs d'une élite, d'un monde cultivé, de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, de ne s'être pas particulièrement donné à l'éducation et à l'évangélisation des milieux plus défavorisés. On a beaucoup dit que la Commune avait persécuté et tué parce qu'elle voulait couper définitivement le prolétariat de la religion. Or, les jésuites, en ce sens, n'étaient pas directement des éducateurs des masses populaires.
Alors, pas directement, mais c'est en partie faux, parce que prenez un homme comme le père Olivain, il n'était pas le seul. C'était des jésuites qui, certes, travaillaient dans les collèges, où il y avait surtout, comme vous l'avez dit, la noblesse et la haute bourgeoisie, ou la bourgeoisie, mais pas uniquement. Mais en même temps, c'était des hommes qui étaient très soucieux de l'apostolat social et de l'apostolat ouvrier déjà à l'époque. Donc le père Olivain avait fondé des groupes pour aider dans l'apostolat social, dans l'apostolat ouvrier. C'est ce qui va donner ensuite naissance à ce qui s'appelle aujourd'hui la conférence Olivain. Il avait formé une société de jeunes gens. Cette société de jeunes gens, alors certes, c'était surtout des jeunes gens qui provenaient des bons milieux, mais c'était pour leur donner une éducation, pas uniquement spirituelle, mais pour les amener à se former à la vie publique et à la vie politique, parce qu'ils disaient, j'ai trouvé cette phrase d'ailleurs ce matin, qu'il fallait s'élever en temps de révolution, et ça il l'écrivait avant 1870, hein, mais il avait connu déjà 1848, au-dessus de tous les partis, pour ne servir que les intérêts du pays. Donc c'était des hommes qui avaient le souci du pays et pas simplement le souci de quelques privilégiés dans le pays.
Le père Olivain, si mes souvenirs sont bons, était un proche de Frédéric Ozanam de la conférence Saint-Vincent de Paul. Et d'ailleurs, il était un ami intime de l'abbé Henri Planchat, futur religieux de Saint-Vincent de Paul, qui fut fusillé, massacré, c'est un mot plus exact, rue Axo avec lui.
Oui, massacré d'horrible façon, et Père Planchat a eu une attitude admirable, d'après tous les témoignages qu'on en a.
Alors, le Père Olivain, justement, Pierre Olivain, c'est aussi un prédicateur.
Oui.
Et en quoi cette prédication en fait-elle une personnalité?
Alors, c'est un prédicateur, pas par hasard, parce que lui, il provenait d'une famille modeste, hein, son père était militaire, mais pas haut gradé. Je crois que son père est mort alors que le père Olivain était jeune, donc le père Olivain a été obligé de prendre en charge sa famille. C'était une intelligence exceptionnelle. Il a passé le concours de Normal Sup, donc il est entré à la rue d'Ulm, et il a passé l'agrégation d'histoire et de géographie. C'était un homme très très pointu intellectuellement. Mais donc il était d'une famille qui n'était pas catholique. Et il a découvert le catholicisme par quoi ? Par la prédication du père Lacordaire. Donc ça a été pour lui un choc. Et par ensuite, justement, l'amitié et le travail avec Ozanam. Donc il y a ces deux aspects tout de suite dans sa vie de jeune converti. Et c'est ça qui va le conduire à entrer dans la Compagnie de Jésus. Donc dans la Compagnie de Jésus, et il a eu les armes intellectuelles évidemment pour ça, en étant formé à Normal Sup, il aura un rôle de prédication éminent, renouant ainsi avec la grande tradition jésuite des prédicateurs du XVIIe siècle.
Père Jean-François Thomas, un très grand merci pour cette émission passionnante. J'espère que cela aura donné à nos auditeurs l'envie d'en savoir davantage, de se pencher sur le destin de ces jésuites martyrs. Merci, mon père.
Merci à vous.